13h, 14h, tout terrain.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et ravis de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Et pour commencer, autopsie d'un féminicide avec la plongée au cœur du procès de l'assassinat de Julie Douilly, tuée en Corse il y a 2 ans par son ex-compagnon. Marion Dubreuil va nous raconter l'engrenage qui a conduit à ce drame que personne n'a pu ou su arrêter malgré des plaintes déposées par la victime. Mais que se passe-t-il dans la centrale nucléaire de Taishan dans le sud de la Chine et quel impact sur l'industrie nucléaire française puisque c'est un réacteur EPR qui pose question. Décryptage à suivre de Maud Descamps. Nous irons en Iran qui vient d'élire un nouveau président et comme prévu, c'est l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi qui l'emporte, scrutin sans grand enthousiasme, mais pourtant crucial à un moment clé pour le pays avec la reprise des discussions sur l'accord nucléaire iranien. Direction ensuite l'Algérie avec un record d'abstention pour les législatives et Mathieu Bock nous racontera la chape de plomb retombée sur le pays 2 ans après l'espoir qu'avait fait naître le mouvement Irak. Enfin, gros plan sur le procès en appel d'un homme qui clame son innocence dans une affaire qui remonte à près de 20 ans, le meurtre de la jeune Élodie Kulik, affaire qui est aussi le combat d'un père pour connaître la vérité sur la mort de sa fille. Voilà pour le programme Tout Terrain, c'est parti.
Europe 1, Tout Terrain, Fabienne Lemoyle.
Et pour commencer, je vous propose de vous plonger au cœur du procès de l'assassinat de Julie Douilly. Un procès emblématique des féminicides et de l'engrenage qui a conduit son ex-compagnon à la tuer il y a 2 ans à l'île Rousse en Corse. Le verdict est tombé mercredi soir à Bastia. Réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Un procès qui a permis au père de Julie de prendre encore plus la mesure du calvaire que sa fille avait vécu.
Même moi qui étais au courant des violences qu'il avait mis sur Julie. Jamais j'aurais imaginé que ça pouvait être aussi fort. Je pensais pas que Julie avait pu supporter autant de choses sans rien dire. J'aurais juste voulu qu'il dise la vérité, au moins pour ses enfants. Pour eux, pour la justice, il aurait peut-être dû, ou sûrement dû, dire la vérité.
Bonjour Marion Dubreuil.
Bonjour Fabienne.
Êtes du service police-justice d'Europe 1. Vous rentrez tout juste de Corse. Vous avez suivi l'intégralité de ce procès qui a duré 5 jours. C'est un choix que nous avons fait à la rédaction d'Europe 1 pour comprendre, je le disais, l'engrenage qui conduit à de tels drames.
Oui, parce que c'était l'occasion de montrer le déroulement d'une audience pour féminicide. On fait maintenant le décompte du nombre de femmes qui meurent chaque année sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint presque tous les jours, déjà plus de 50 cette année. Julie Douilly, vous l'avez dit, c'était le 30e féminicide de l'année 2019 sur 146. C'est devenu un symbole grâce à la ténacité de ses proches, des associations. Son assassinat a déclenché le Grenelle des violences faites aux femmes. Ce dossier donc très médiatique, c'était l'opportunité de montrer comment on juge les féminicides en France. La banalité du mal, c'est ce qu'a plaidé l'avocat de la défense qui ne voulait pas que l'accusé, Bruno Garcia, soit jugé pour l'exemple.
En quoi cette affaire, ce dossier est emblématique de ces féminicides ?
Eh bien Fabienne, je vais juste vous dire ce que j'ai dit à notre rédacteur en chef quand j'ai fait la liste des arguments pour montrer combien l'assassinat de Julie Douilly représentait les violences faites aux femmes en France. Elle a été tuée par arme à feu. C'est le cas pour 30% des féminicides. Elle avait 2 enfants avec son meurtrier et même après la séparation, la question de la garde des enfants, c'est ce qui maintient souvent le lien toxique avec le conjoint violent. Enfin, comme près de 2/3 des victimes de féminicides, elle avait alerté les services de police, de gendarmerie. Julie Douilly avait déposé 2 plaintes et 6 mains courantes.
Alors justement, même si Bruno Garcia était le seul dans le box des accusés, est-ce qu'il a été question justement de la responsabilité, des défaillances de la chaîne pénale, puisque vous parlez de ces 2 plaintes, de ces 6 mains courantes ?
Oui, et encore plus, je dirais, parce que le procès s'est ouvert le même jour avec la publication du rapport de Mérignac. Vous savez, ce rapport très attendu qui listait les dysfonctionnements qui ont conduit le 4 mai dernier à l'assassinat de Chahinez Boutaha par son mari, déjà condamné pour violence conjugale. Alors pour Julie Douilly, il n'y avait pas eu d'inspection à l'époque, mais l'avocate générale qui représente le parquet de Bastia à l'audience a fait une sorte de mea culpa dans son réquisitoire. Charlotte Belluet a accepté de le refaire à mon micro.
Le danger a été sans doute très mal évalué parce qu'il y a eu des failles dans le système. Il faut toujours savoir que la honte et la peur précèdent le silence et que ces femmes n'arrivent pas à parler, même quand elles franchissent une porte de gendarmerie, si on ne les aide pas à s'exprimer. Les principales failles, c'est que Julie Douilly n'a pas donné de nom de personne à qui elle aurait pu se confier, qui aurait pu voir ses traces d'hématome. Elle n'a pas donné le nom de sa voisine, par exemple. Et c'est vrai que nous, Quand je dis nous, je m'inclus, la gendarmerie, mais aussi le parquet qui dirige l'enquête, on n'a pas cherché à aller plus loin, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé au-devant d'elle en lui posant des questions qui sont quand même des questions de routine. J'ignore si ça aurait changé la donne, et en réalité, je ne pense pas, parce que cet homme était totalement déterminé. Mais je l'ai dit parce que je le devais aux parents. Un magistrat ne doit jamais mentir, donc il y avait des failles dans ce dossier. Et je pense que l'analyse de ces failles-là peut aider pour l'avenir à mieux lutter contre les violences conjugales.
Voilà, l'avocate générale parle clairement de failles dans ce dossier. Mais ce qui a été marquant au cours de l'audience, Marion, c'est qu'en fait, tout le monde dans l'entourage de Julie Douhib connaissait une petite pièce du puzzle qui aurait peut-être permis d'alerter, d'arrêter en fait ce scénario terrible.
Oui, les témoins ont défilé à la barre pour dire les différentes scènes de violence auxquelles ils avaient assisté. Il y a eu cette voisine qui, après avoir vu Bruno Garcia empoigner Julie par les cheveux, lui a fait dévaler les escaliers. Elle avait convenu avec Julie d'un nom de code avec elle au cas où ça débordait trop. Stéphanie, qui avait vu Bruno Garcia suivre Julie, elle a accepté de me parler à la fin de l'audience pour parler de ce sentiment d'impuissance et de culpabilité.
Je m'en suis rendu compte parce qu'elle me l'a dit à un moment donné et que les choses ont pris des proportions assez grave quand ils se sont séparés, quand il l'a mise à la porte. Donc à ce moment-là, je l'ai hébergée chez moi et puis oui, je l'ai vue la suivre jusqu'à l'école, je l'ai vue la suivre jusqu'à son médecin traitant. Elle nous a suivis jusqu'à la gendarmerie de l'Île-Rousse. Donc j'ai compris vraiment ce qu'elle vivait, puis j'ai vu surtout son état à elle. Je l'ai vue dans une terreur réelle, elle avait très peur, elle était devenue très maigre. Donc voilà, on a vraiment compris que c'était très grave. Et ça a été difficile pour elle, et c'est pour ça qu'elle a toujours minimisé. Mais elle l'a fait pour protéger ses enfants, oui, avant tout. C'est difficile à accepter, ça, de se dire qu'on n'a pas pu voir ça avant que ça arrive.
Très poignant, hein, le témoignage de son amie qui l'a hébergée, hein, essayé de l'aider quand on l'entend. L'autre question qu'on se pose souvent dans ces affaires, c'est pourquoi la femme qui subit ces violences, et soyons clairs, il n'y a aucun jugement dans l'interrogation que j'ai, pourquoi elle ne part pas plus tôt, pourquoi elle n'a pas parlé plus tôt non plus, Marion ?
Ouais, c'est sûr, c'est la question que tous ses proches se posent, c'est la question qu'on s'est tous posée à l'audience. Il y a plusieurs réponses. D'abord, les violences psychologiques, elles commencent de manière progressive, c'est pas tout de suite les coups. Et après quelques années de vie commune, après la naissance, notamment pour Julie, du deuxième enfant. Ensuite, et c'est sans doute le motif principal, Julie et Bruno Garcia ont eu deux enfants ensemble. Julie ne pouvait pas partir sans eux, elle ne voulait pas non plus les priver d'un père. Je repense à la diffusion d'un enregistrement sonore déchirant, une scène de dispute entre Julie et Bruno. Dans cet extrait, Bruno insulte Julie de clocharde. On entend la voix d'un enfant qui dit « Maman n'est pas une clocharde ». Bruno Garcia menace de jeter Julie à la porte. Et puis, toujours ce petit garçon qui demande à sa mère « Tu vas partir ?» Et elle répond qu'elle ne l'abandonnera jamais, peu importe ce qu'il pourra faire, en parlant de Bruno Garcia.
On va marquer une pause après ces propos, je dois dire, assez marquants quand même que vous nous rapportez, Marion. Et dans un instant, vous allez nous dire si ce procès a fait prendre conscience au moins à l'accusé, donc Bruno Garcia, de ce qu'il a fait subir à son ex-compagne. Surtout quand on entend les regrets du père de Julie Douhib, que Bruno Garcia n'ait quasiment exprimé aucune excuse au procès.
Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
Retour dans tout terrain sur le procès de l'assassinat de Julie Douhib en Corse. Un procès, je vous le disais, emblématique de l'engrenage qui a conduit son ex-compagnon à la tuer il y a 2 ans. Bruno Garcia, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Toujours avec moi Marion Dubreuil qui a suivi ce procès pendant 5 jours. Marion, est-ce qu'au terme de ces 5 jours d'audience, Bruno Garcia a compris ce qu'il faisait dans le box ? Je dis ça parce que à travers ce que vous avez expliqué à l'antenne dans vos directs, on a des doutes quand on voit son attitude. Est-ce qu'il a, par exemple, exprimé des regrets ?
Non, il n'a pas eu un mot pour la famille de Julie Douhib. Et c'est à peine s'il s'est excusé dans les derniers mots de l'accusé auprès de ses enfants qui sont aujourd'hui âgés de 10 et 12 ans. 2 ans et demi après les faits, il a vraiment donné le sentiment de ne pas avoir avancé. Julie Douhib était sa femme et elle devait le rester. En la tuant, c'est comme s'il avait signé un acte de propriété sur elle et sur ses enfants parce qu'il devenait le seul parent survivant. Sa colère, elle était intacte. Il a délibérément, par exemple, tourné le dos à Sébastien Guérini, le professeur de sport avec lequel Julie Douhib entretenait une liaison quand il est venu témoigner. Et depuis sa cellule, quand il était sur écoute, il avait dit qu'il allait lui régler son compte et c'est ce qu'il ferait tenir en prison.
Et ce que vous nous racontez là, c'est vraiment ce phénomène d'emprise qui s'est installé effectivement au fil des années dans ce couple. Ça pose la question aussi de la réinsertion de ces conjoints violents, Marion.
Oui, et alors là, le psychiatre qui a expertisé Bruno Garcia en prison, il a été sans appel. Les personnalités paranoïaques comme lui ne se soignent pas, pas de traitement curatif, à la rigueur des sédatifs s'il accepte de les prendre. Et c'est aussi pour ça que la perpétuité a été vécue comme un soulagement par les proches de Julie et notamment son amie d'enfance Céline Lolivray.
Je suis pour qu'on réinsère des hommes violents, je suis pour qu'on les aide. Mais dans l'histoire de Julie, cet homme a prémédité son acte. Il dit avoir aucun regret quand l'avocate générale lui dit « À quoi avez-vous pensé quand vous avez tiré sur Julie ?» Il a dit « À mes enfants, ça ne pouvait être que la perpétuité. » Il avait fait des menaces de mort au papa de Julie avant l'emprisonnement, pendant sa peine à Borgo. Il a fait des menaces de mort sur les amis de Julie. Il est impensable que ce meurtrier ressorte parce qu'ils l'ont dit les experts. Tout ce que fait le meurtrier de Julie, Bruno Garcia, il l'exécute. Donc il aurait mis ses menaces à exécution.
L'avocat de la défense, il avait d'ailleurs axé sa plaidoirie sur cette question, hein, celle des hommes irrécupérables de l'échec de la société. Il avait dit « Bruno Garcia est malade, avec une peine de haine comme la perpétuité. Il ne comprendra rien, monsieur Garcia, il va ruminer dans sa cellule. » Et il avait, à ce moment-là, mis en garde les jurés de la possibilité d'un appel. On ne sait toujours pas si Bruno Garcia va faire appel de cette décision.
Alors l'autre question, ce sont les enfants. On a bien compris à travers cette scène que vous nous avez racontée, cette dispute sous leurs yeux, qu'ils ont vécu des moments terribles avant, bien évidemment, le pire, la mort de leur mère. La question des enfants qui a été au cœur d'une des audiences, comme vous nous l'expliquez cette semaine.
C'est dans la chambre des enfants que Bruno Garcia a tiré la première fois sur Julie Douib, rappelle maître Francesca Seatelli. Quand on aime ses enfants, monsieur Garcia, on ne leur enlève pas leur mère. Dans son box, l'accusé garde la tête baissée. L'avocate représente les deux petits garçons, âgés de 10 et 12 ans aujourd'hui, trop jeunes pour assister à l'audience.
Ce ne sont pas des orphelins comme les autres, ce sont des orphelins par la main de leur père. Ils sont encore un enjeu pour Bruno Garcia, qui revendique toujours la garde de ses enfants. On ne sait pas trop selon quelle modalité, mais oui, il en fait toujours un enjeu. Un mauvais mari ne peut pas être un bon père. Pour moi, il n'y a pas de demi-mesure. Lorsqu'on est un mauvais mari, on fait du mal à ses enfants.
Ses enfants ont besoin de stabilité, de normalité. Leur famille maternelle est un refuge, rappelle l'avocate. Ils sont terrifiés à l'idée que leur père vienne les chercher. Dès aujourd'hui, si Bruno Garcia est condamné, les juges professionnels qui composent la cour d'assises pourront lui retirer son autorité parentale.
Et qu'est-ce que les juges professionnels ont décidé justement au final, Marion ?
Eh bien, Bruno Garcia a été déchu de son autorité parentale sur ses deux fils. Cela veut dire qu'il n'a plus aucun droit sur eux. Il n'a de père que le nom. La mesure était provisoire jusque-là. Elle est désormais définitive, même si, bien sûr, il peut encore faire appel de cette décision.
Pour terminer, Marion, après ces 5 jours, justement, qu'est-ce qui vous a marqué ? Alors qu'on le répète, vous étiez venue avec l'idée de faire en quelque sorte l'autopsie d'un féminicide. C'est quoi ? C'était la chronique d'un drame annoncé, mais que personne n'a su arrêter ?
Oui, on peut le dire comme ça. Moi, j'ai retrouvé les schémas que je connais, ceux de l'emprise exercée sur une femme, au moyen des finances, du travail, des enfants, et la paranoïa d'un homme que l'on ne doit pas contester et qui devient plus dangereux quand on veut lui échapper. Mais le plus insoutenable pour moi, c'est ce sentiment d'impunité qu'a eu Bruno Garcia. Il avait déjà agressé son ex-compagne avant Julie, et les plaintes de cette jeune femme avaient été classées sans suite déjà par la gendarmerie. Il a donc été conforté dans cette position dominante, et tout au long de l'audience, il n'a pas arrêté de dire que Julie avait une liaison cachée dans son dos, comme si lui avait été dans son bon droit pour laver son honneur.
Ce drame a eu lieu en mars 2019, c'était il y a plus de 2 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, après le Grenelle contre les violences conjugales, ce drame est encore possible? On a quand même progressé?
Bon, on a quand même progressé, heureusement. On a parlé plus des violences conjugales. Et puis, il y a aussi des mesures qui ont changé, notamment sur le port d'armes. Maintenant, dès le stade de l'enquête, un homme violent peut être désarmé. Donc ça, c'est déjà très important. Ça n'avait pas été le cas pour Julie Douib. Hein. Son ex-conjoint avait un port d'armes et la gendarmerie en avait été avisée. Elle les avait même mis en garde. Elle leur avait dit « il est armé hein. ». Et ça n'avait pas été entendu à l'époque. Donc il y a cette mesure-là. Elle n'est pas souvent ou pas suffisamment appliquée d'après les associations, et il faut quand même le préciser. Il y a aussi le bracelet anti-rapprochement qui est maintenant accessible, pareil, avant une condamnation et qui permet de savoir quand un conjoint violent se rapproche de sa victime. Mais là encore, il est trop peu déployé. C'est à peine 90 bracelets anti-rapprochement qui sont aujourd'hui déployés et seulement 90 femmes qui sont équipées de ce dispositif.
Merci beaucoup Marion Dubreuil. J'aimerais juste qu'on termine avec les mots du père de Julie Douillib, ceux que vous avez recueillis aussi le soir du verdict.
Le combat contre la violence faite aux femmes, je continuerai à tout faire. Ça c'est clair et net, mais on va pouvoir avancer différemment. On pense à Julie depuis 2 ans et demi. Donc le verdict nous a, si elle est là-haut et qu'elle nous écoute, j'espère qu'elle sera contente de nous.
Voilà pour les mots très touchants du père de Julie Douillib. Merci beaucoup encore Marion Dubreuil.
Merci Fabienne.
Europe 1.
À suivre, que se passe-t-il dans la centrale nucléaire de Taishan dans le sud de la Chine et quel impact sur l'industrie nucléaire française puisque c'est un réacteur EPR qui pose question.
Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
Que se passe-t-il dans la centrale nucléaire de Taishan dans le sud de la Chine? C'est la question qu'on se pose depuis lundi, depuis qu'on a appris l'existence d'une fuite dans le réacteur EPR de cette centrale. La nouvelle technologie nucléaire d'EDF, depuis difficile de connaître véritablement la situation sur place. Bonjour Maud Descamps.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Vous êtes la spécialiste des questions d'énergie à Europe 1, c'est vous qui avez enquêté sur le sujet. Avant déjà de revenir sur la difficulté de travailler et d'obtenir des informations, qu'est-ce qu'on sait précisément aujourd'hui de la situation dans la centrale ?
Alors, après plusieurs jours de silence, sachez déjà que les autorités chinoises ont fini par s'exprimer et nous dire ce qui s'était passé donc dans ce réacteur numéro 1 de la centrale. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le combustible, donc qui se présente sous forme de pastilles d'uranium, est rangé dans des grands tubes. Ces grands tubes, on les appelle des crayons. Eh bien, ces crayons sont protégés par des gaines et il semblerait que certaines de ces gaines aient perdu en étanchéité, et ce qui aurait permis donc à du gaz radioactif de sortir de ces crayons pour aller se mettre dans un autre circuit du réacteur qu'on appelle le circuit primaire. Alors c'est un circuit qui est fermé, on ne parle pas de fuite vers l'extérieur. Néanmoins, le niveau de gaz dans ce circuit primaire a dépassé les seuils autorisés, et en fait, au lieu d'arrêter le réacteur pour aller voir ce qui s'y passait, les Chinois ont eu un autre réflexe, celui de relever le seuil de radioactivité accepté pour continuer à faire tourner le réacteur. Et c'est ça qui est inquiétant, m'a expliqué Yves Marignac, porte-parole de Negawatt, spécialiste du nucléaire.
Face à une augmentation continue de la contamination dans le circuit primaire du réacteur, les autorités chinoises, au lieu de passer un certain seuil, de décider d'arrêter le réacteur pour stopper la contamination et inspecter le combustible, semble avoir décidé, chaque fois qu'un nouveau seuil est franchi, d'augmenter la limite autorisée, au point apparemment d'arriver aujourd'hui à des niveaux qui, en France, imposeraient ce qu'on appelle le repli du réacteur, c'est-à-dire son arrêt, pour procéder à toutes ces opérations. C'est évidemment une conduite tout à fait contraire à ce qu'on peut attendre d'une autorité en matière de sûreté nucléaire.
Donc on a bien compris, en France, on aurait arrêté la centrale tout simplement, Maud.
Exactement.
Alors, ce qui est surprenant aussi, c'est que ce ne sont donc pas les autorités chinoises qui ont annoncé cet incident sur ce réacteur EPR, c'est la chaîne CNN, la chaîne américaine. Qu'est-ce que les Américains viennent faire dans cette histoire ?
Alors, on sait qu'il y a beaucoup de tensions en ce moment entre la Chine et les États-Unis sur le plan politique, sur le plan commercial. Ce sont en fait des managers de Framatome, donc qui est une filiale d'EDF, mais de Framatome États-Unis, qui ont averti l'administration américaine donc que les exploitants de la centrale de Taishan, au lieu d'arrêter le réacteur, avaient relevé les seuils. Alors, on ne sait pas s'il y a une volonté éventuellement de décrédibiliser les Chinois, mais en tout cas, on sait que l'administration Biden a ensuite contacté le gouvernement français. Alors, certains cadres de chez EDF pense qu'il pourrait peut-être s'agir d'une manœuvre pour déstabiliser la filière EPR française, puisqu'il y a des gros enjeux économiques derrière tout cela. Il y a beaucoup de pays comme l'Inde, par exemple, qui cherchent à s'équiper en centrales nucléaires. Il y a plusieurs milliards d'euros sur la table. Et un syndicaliste de chez EDF me disait, en fait, tous les coups sont permis. Ce qui interpelle surtout dans cette circulation de l'information, c'est que ni EDF ni l'État français, qui était au courant pourtant depuis plusieurs mois, n'ont communiqué sur cette fuite. Et il a fallu attendre donc que ce soit CNN qui sorte l'information pour qu'on ait enfin une réaction d'EDF. Du côté du gouvernement, moi j'ai appelé le cabinet donc de Barbara Pompili, la ministre en charge de la transition énergétique, Matignon, Bercy, et à chaque fois on me fait la même réponse. C'est le commissariat à l'énergie atomique qui communique au nom des pouvoirs publics. Évidemment, j'ai appelé le CEA et là on me dit, eh bien nous, on n'a rien à dire parce qu'on n'a aucune information.
Oui, donc on parle de l'omerta du côté des Chinois, on peut parler aussi quand même d'une forme d'omerta, toujours sur ces dossiers du côté français, parce qu'on dit effectivement du côté de la Chine, rien ne sort comme information.
Alors on va dire que la communication est parcellaire, hein. Je vous ai dit, il a fallu attendre plusieurs jours pour avoir un communiqué de l'exploitant chinois de la centrale, qui nous dit évidemment que tout va bien. En fait, l'enjeu, il est très important, comme nous le rappelait notre correspondant à Pékin, justement, Sébastien Lebelzik.
Taishan est une pièce maîtresse. Ces deux réacteurs EPR sont les plus puissants du monde et alimentent en électricité une zone équivalente à la Grande-Bretagne, mais deux fois plus peuplée. Le site s'étend sur plus de 400 hectares. Les travaux ont duré 11 ans et mobilisé jusqu'à 15 000 ouvriers. C'est donc allé beaucoup plus vite que sur les chantiers français et finlandais de l'EPR, puisque ce premier réacteur a ouvert fin 2018 et le second a été connecté au réseau la semaine dernière.
Et en fait, Fabienne, l'Omerta, elle est aussi et surtout du côté de Framatome. Hein, je vous disais, c'est une filiale d'EDF. C'est elle qui a co-construit cette centrale. C'est aussi elle qui a construit ce combustible sur lequel il y a la fuite dans son usine française de Romans-sur-Isère. Depuis lundi dernier, j'ai appelé à peu près une à deux fois par jour le service de communication. Personne ne décroche et personne ne me rappelle.
Alors évidemment, au-delà de ce qui se passe actuellement en Chine, quand on voit les chantiers qui n'avancent pas et qui coûtent de plus en plus cher, Flamanville en France, l'EPR aussi en Finlande, cet épisode de Taishan, évidemment, ça porte un coup pour les futurs projets du nucléaire français, on imagine.
Bien sûr, Fabienne. Alors, tout dépendra en fait de l'origine du problème de Taishan. Il faudra attendre que les Chinois ouvrent le réacteur. Alors, le combustible qui est actuellement à l'intérieur doit être renouvelé en février 2022. Donc, vous voyez, on peut encore attendre de longs mois avant d'avoir une réponse. En fait, il y a trois hypothèses sur la table. Soit c'est un problème de transport, c'est-à-dire que le combustible a été abîmé au moment où il a été acheminé de la France vers la Chine. Soit c'est un problème d'exploitation. Ça veut dire que le combustible a été endommagé par un élément extérieur au réacteur. Alors, il y a un ingénieur d'EDF qui m'expliquait, par exemple, que lorsqu'il y a de la maintenance, on peut parfois oublier un boulon, une clé de 10 qui va rester dans le réacteur. Et lorsqu'on remet en route, eh bien, voilà, cet outil va venir endommager le combustible. Donc ça, c'est la thèse même la plus probable.
Sauf là, on ne parle pas quand même juste d'une voiture qu'on emmène au garage, hein, quand même, en passant. Hein.
Non, tout à fait. On parle d'un réacteur nucléaire et c'est vrai que c'est ça qui est surprenant. Et pourtant, c'est quand même l'hypothèse la plus probable. Et puis, il y a une troisième hypothèse, et là, ça poserait vraiment problème, c'est le problème de conception du combustible. Ça voudrait dire que Framatome, donc, qui fabrique ce combustible, aurait fabriqué des pièces défectueuses. C'est déjà arrivé dans le passé. Framatome avait également construit la cuve de l'EPR de Flamanville sur laquelle il y a une fissure. Donc, on sait hein, qu'il y a déjà des soucis au sein de Framatome. Donc, si là encore, il y a un problème de conception, c'est vraiment le savoir-faire français du nucléaire qui risque d'être remis en cause. Vous savez, la France essaye actuellement de vendre l'EPR un peu partout dans le monde, mais aussi EDF attend l'aval de l'Élysée pour construire 6 nouveaux EPR sur notre territoire. Et donc, il va falloir attendre les conclusions de l'enquête chinoise. L'autorité de sûreté française, nucléaire française, est en contact en ce moment avec ses homologues chinois et elle attend d'avoir des données plus précises pour savoir donc s'il faut adapter ici les normes en France sur les futurs EPR.
Merci beaucoup, Maud Descamps.
Merci, Fabienne.
Europe 1. À suivre, direction Téhéran avec les Iraniens qui ont un nouveau président. Sans surprise, c'est l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. Scrutin sans surprise et sans enthousiasme.
Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
Les Iraniens ont donc un nouveau président et sans surprise, c'est l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. Une élection qui n'a pas suscité un grand enthousiasme. Comme notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini le notait dès son arrivée à Téhéran mardi dernier, quelques jours avant le vote.
Celui qui fait figure de favori, c'est Ebrahim Raisi, considéré comme le fils spirituel d'Ali Khamenei, à tel point que certains se demandent si ce scrutin est une élection ou bien une désignation. L'ambiance des rues de Téhéran donne le ton. Ce qui frappe en arrivant, c'est cette impression de ne pas arriver dans une capitale en campagne, pas d'affiches, seules des photos du guide et de Qassem Soleimani, ancien général des passes d'Arantu, et dans une frappe américaine, jalonnent les larges avenues de la ville.
Et on retrouve en direct depuis Téhéran Jean-Sébastien Soldaini, bonjour.
Bonjour.
On entend le peu d'enthousiasme hein, à votre arrivée, je le disais en début de semaine, pourtant l'enjeu est crucial de cette élection.
Oui, car il s'agit de relever l'Iran. Le pays est sous sanctions internationales et depuis que Donald Trump a décidé de sortir de l'accord sur le nucléaire, les prix ne cessent de grimper. Quand vous changez des euros ici, c'est tellement fluctuant que les employés ne cessent de regarder le taux de change au cours de l'opération. Et dans la vie quotidienne des Iraniens, c'est pareil. Les aliments comme la viande, les œufs, etc. deviennent de plus en plus chers. Il faut donc mettre fin à cette spirale. Les pouvoirs du président restent limités. Certes, c'est le guide qui décide d'une grande partie de la politique, mais sur l'économie, le président a son mot à dire.
Et ce qui vous a marqué aussi, c'est que personne ne souhaitait aller voter ou se présenter à cette élection.
Rassoul vend des fruits secs et il affirme que si les Iraniens consomment moins, ce n'est pas seulement à cause des sanctions internationales.
Ceux qui sont en place en ce moment sont responsables de la situation. Le président modéré gère mal ce pays. Alors j'irai voter pour ceux qui ont un plan.
Et les conservateurs ont un plan, dit-il. Un plan, c'est bien ce qui dérange Céline, jeune commerciale qui n'ira pas voter.
Mon bulletin ne changera rien, car la personne qui va gagner cette élection a déjà été désignée.
Ebrahim Raisi, c'est le seul nom qu'elle connaisse, comme si les 6 autres candidats passaient sous les radars de la population.
Pourquoi ce manque d'enthousiasme? Encore une fois, parce que cette élection s'était jouée d'avance?
Alors le manque d'enthousiasme, c'est lié tout d'abord au fait que le président sortant n'a pas su faire les changements de société attendus. Un peu plus de liberté publique, par exemple. Il incarnait aussi une forme d'ouverture avec les puissances occidentales, mais Donald Trump a tout balayé. Donc le camp modéré d'Hassan Rouhani a déçu ceux qui avaient voté pour lui, ne se sont pas déplacés en disant au final à quoi bon. Et puis il y a évidemment la façon dont s'est passée cette élection. Près de 600 candidatures déposées, seuls 7 ont passé le filtre, 5 conservateurs, 2 réformateurs et aucun candidat issu du camp Rouhani. Ça laisse dubitatif sur la pluralité. J'ai pu rencontrer un de ces candidats recalé par le Conseil des gardiens. C'est l'instance qui décide de qui peut se présenter ou non. Il était vice-ministre de l'Intérieur à une époque, donc avec un certain sérieux, et il a son éviction en travers de la gorge.
Autant de candidats écartés par les gardiens de la Constitution, c'est du jamais vu en Iran. Ce n'est rien d'autre qu'un coup d'État. Tout cela est planifié. Tous les candidats qui pouvaient rivaliser avec M. Raisi ont été écartés. Une élection doit être libre. Ce conseil des gardiens qui décide qui peut se présenter doit être purement et simplement supprimé.
Et puis la limitation du choix dans le vote a continué jusqu'au dernier moment. 3 des 7 candidats se sont retirés dans les dernières 48 heures.
Et puis vous m'avez dit aussi que vous aviez eu du mal à faire témoigner vos interlocuteurs habituels puisque ce n'est pas la première fois que vous vous rendez en Iran.
Oui, quand vous travaillez ici, toutes vos demandes d'interview passent par une agence de presse qui dépend du gouvernement. Elle vous donne des contacts et valide les demandes d'interview. Habituellement, il est possible de parler à tous les courants. Je parle là des voix qui portent, les politiques, les chercheurs, les administrations. Dans la rue, vous pouvez interviewer n'importe qui. Mais cette fois, des personnes que j'ai contactées personnellement, des proches des modérés, m'ont clairement dit, on m'a demandé de ne pas parler.
La dernière fois que vous étiez en Iran, c'était il y a 1 an et demi, en février 2020. Depuis, il y a eu l'élection de Joe Biden. Et forcément, vous êtes demandé si ça changeait la donne avec la reprise des discussions, notamment autour de l'accord sur le nucléaire iranien. On va écouter votre reportage.
Avec son élection, l'inflation a légèrement ralenti en Iran. Signe évident d'apaisement pour ce jeune étudiant en relations internationales. Everything will
change. Tout va changer. Ils ont repris les négociations sur le nucléaire à Vienne. Et si cet accord repart, ça ira mieux pour nous. Ce qui fait que les États-Unis sont un grand pays, c'est quoi? C'est le multilatéralisme. Ils sont encore partout, ils reviennent même dans l'accord de Paris sur le climat. Biden remet les États-Unis sur le bon chemin.
S'il faut lui trouver un défaut, c'est du côté des Iraniens les plus durs qu'il faut chercher. Kanani Mogadam, ancien cadre des gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime, préférait Donald Trump.
Trump playing open.
Trump utilisait la manière forte, mais il jouait franc jeu. Alors que Biden fera du soft power contre nous. Il va faire ça par en dessous, en jouant sur nos divisions.
Au final, donc, comment les Iraniens regardent l'arrivée de Joe Biden? Certains y voient un espoir, quand même?
Chez les plus jeunes et les plus ouverts, ça ne fait aucun doute. Qu'importe si le président élu est conservateur ou non, il pense que Joe Biden est celui qui va permettre un compromis pour alléger les sanctions. Ensuite, si vous êtes plus proche des conservateurs ou des gardiens de la révolution, vous affichez plus de prudence et vous vous débrouillez pour lui trouver un ou deux défauts. Vous l'avez entendu dans le sujet. En revanche, toutes les tendances sont ici d'accord pour trouver un terrain d'entente avec Joe Biden et les États-Unis. Le dernier président conservateur, Mahmoud Ahmadinejad, reste sévère, mais vous allez l'entendre, il ne ferme pas la porte.
Cet accord n'a réglé aucun de nos problèmes. Donc ça ne me pose pas de problème si on le met de côté. Quelle est son utilité? Il n'en a pas. Il doit être corrigé. Ça doit être fait dans un objectif de justice et de respect. Chaque camp, en fonction des bénéfices qu'ils peuvent en tirer, doivent être responsables et agir en équité. À ce jour, trop de responsabilités pèsent sur l'Iran, avec en retour des bénéfices limités, alors que pour les Américains, c'est l'inverse. Ça ne peut pas marcher.
C'est quoi l'enjeu, finalement, derrière cette élection? C'est le guide suprême?
C'en est un, Fabienne, parce qu'il se fait vieux, 82 ans, et donc il ne faut pas que sa succession soit organisée à la va-vite s'il vient à mourir. C'est aussi l'utilité de ce vote, un peu orienté, on va dire, mettre toutes les instances en charge de nommer un nouveau guide à l'unisson. Un président conservateur comme Ebrahim Raisi, il sera sur la même ligne que le Parlement et que les gardiens de la Révolution. Ce sera plus facile de se mettre d'accord sur un nom. Et si Ebrahim Raisi parvient à relancer l'économie, à lever les sanctions internationales, il peut apparaître comme celui qui a sorti l'Iran de l'impasse. Il peut même prétendre à s'installer à la tête de la République islamique.
Merci beaucoup Jean-Sébastien Soldaini.
Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
Jamais des élections législatives en Algérie n'avaient atteint un tel niveau d'abstention. À peine 23% des électeurs se sont déplacés samedi dernier pour ce scrutin, boycotté par le Irak, le mouvement de contestation qui avait soulevé tant d'espoir il y a 2 ans parmi la population. Bien loin de ce que l'on entendait le week-end dernier dans les rues d'Alger quand on demandait justement à cette population si elle comptait aller voter.
Je ne suis pas concerné par ce vote, parce que c'est un vote comique. On vote pour changer quelque chose, pour créer une chose, mais pas voter pour voter, c'est ça.
Je n'ai jamais voté et je ne voterai jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'est personne, ni le député, ni le groupe. Il y a une Algérie qui marche avec un système et le peuple avec un autre système. C'est comme ça l'Algérie, ça a été depuis toujours et ça restera depuis. C'est ça.
Bonjour Mathieu Bock.
Bonjour Fabienne.
C'est donc vous qui avez tendu votre micro dans les rues d'Alger, grand reporter à la rédaction d'Europe 1, vous rentrez tout juste d'Algérie. On vient d'entendre ces électeurs pas du tout mobilisés, on va y revenir dans un instant, mais déjà, vous n'étiez pas retourné en Algérie depuis 2 ans. Quel climat vous avez trouvé alors que de nombreux opposants, dont l'ancien correspondant d'Europe 1, Raled Rareni, avaient été arrêtés juste avant ce scrutin?
Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, pendant le Irak, il y avait un soulèvement populaire festif, très joyeux, pas du tout violent. Et pour travailler, si on parle de ça, c'était très facile. On sortait de l'hôtel, on ouvrait notre Nagra, on tendait notre micro et on avait des interviews à plus savoir quoi en faire. Tout le monde voulait parler. Quand on sortait le micro, les gens se passaient le micro pour parler. Il y avait une vraie liberté de parole, une vraie liberté de ton. Les gens pouvaient enfin dire ce qu'ils avaient sur le cœur. Et là, quand on y retournait, et puis j'étais pas seul, j'étais avec plusieurs confrères. C'est toujours bien de confronter les avis avec les autres confrères. Et on s'est tous dit la même chose, on s'est dit il y a une vraie différence, il y a une vraie chape de plomb. Les gens, comme vous allez l'entendre, ne parlent plus, ne veulent plus parler au micro. Et quand ils parlent, ils disent non, mais je vote pas, merci, au revoir, et c'est fini. Et on peut plus faire d'interview fleuve comme on faisait avant. Les gens veulent être très discrets dans la rue, pas que ça se voit, et ils veulent plus parler au micro.
En témoignent 2 extraits de vos reportages qui ont été diffusés à l'antenne la semaine dernière. On va d'abord écouter un premier extrait. C'était juste avant le vote dans Europe Midi, vendredi dernier.
Si beaucoup d'Algériens refusent de parler à notre micro en pleine rue, certains nous confient plus discrètement qu'ils craignent des représailles de la part des policiers.
Vous savez qu'on risque gros. On va se faire ramasser. Vous allez repartir. Vous allez remonter en Europe. On va rester ici.
Même s'ils sont méfiants, certains acceptent de nous raconter rapidement pourquoi ils ne sont pas allés voter aujourd'hui.
Je ne vais pas voter. Parce que, comme disait Coluche, si le vote servait à quelque chose, ça serait interdit il y a longtemps. Je pense qu'il y a encore des gens du Hirak en prison. Je ne peux pas vous dire plus.
Voilà, et puis autre extrait qui témoigne justement de cette difficulté à pouvoir interroger des gens, c'était le jour même du vote.
Regardez autour de vous ce qu'il y a. Quand vous avez sorti votre micro, comment ils ont sorti pour voir ce qui se passe? C'est un journaliste qui est autorisé, ou vous trouvez ça normal que la police ne sache pas que vous êtes un journaliste, vous êtes autorisé, et vous regardez comme ça? Ça, c'est une intimidation. C'est pour ça que les gens ne veulent pas donner leur opinion.
Qu'est-ce qu'il veut dire, là, d'ailleurs, quand il dit journaliste autorisé, pas autorisé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il croit voir autour de lui quand vous sortez votre micro?
Ben, moi, j'avais une accréditation. Hein, on a une accréditation autour du cou qu'on présente à un policier qui nous contrôle, on va dire, 2 ou 3 fois par jour. Une accréditation en bonne et due forme, plus un formulaire qu'on a dans le NAGRA, qu'on montre en plus. N'importe quel policier peut le demander et il ne s'en prive pas. Et devant les bureaux de vote, c'est pareil. Quand on veut rentrer dans un bureau de vote, il nous le demande. Et donc, lui, ce monsieur, ce qu'il voulait dire, c'est que malgré ça, lui et nous aussi, on ressentait la pression des policiers qui étaient à côté, qui étaient en uniforme. Il y en avait beaucoup. Hein. Il y avait vraiment des dizaines et des dizaines partout.
Donc un peu l'impression d'être sous surveillance.
Bah ouais, c'est ça. Quoi.
Et d'ailleurs, vous m'avez dit que plusieurs fois, vous n'aviez pas forcément votre micro siglé.
Oui. C'est même si j'ai l'autorisation, j'avais le sigle Europe 1 sur mon micro et sur mon Agra. Par moment, je sentais bien que c'était pas ça qu'il fallait faire. Donc, je rangeais mon micro et je sortais juste mon téléphone et j'enregistrais avec mon téléphone. Et ça, plusieurs fois, ça a débloqué des personnes. Je fais non, mais attendez, on peut faire l'interview d'une manière plus discrète, pas forcément avec un micro. Voilà, on parle comme ça. Ok, d'accord. Et là, ça a duré 2-3 minutes.
Et ce qui a été marquant, c'est un taux d'abstention record. Exemple, devant ce bureau de vote, quand vous étiez en reportage samedi midi, la semaine dernière.
Dans ce bureau de vote, les urnes étaient toujours vides en milieu de matinée. Pas un seul bulletin n'avait été déposé. Dehors, sous l'œil des policiers plantés devant le bâtiment, Salima et Bouchra longent les murs recouverts d'affiches électorales. Elles n'iront pas voter, alors que pourtant, elles s'étaient renseignées sur les programmes.
Non, je ne suis pas allée voter, non. Il y avait des programmes incohérents. Après, bon, je ne sais pas si c'était juste humoristique ou autre chose, parce qu'on a vu de tout. Mais après, non, ça ne nous a pas donné envie d'aller voter.
Et puis, finalité des choses, ça ne sert à rien.
Tu veux pas leur donner ta voix.
Bah, ça change rien, franchement, quand je vais perdre mon temps.
Donc on voit personne dans les bureaux de vote. Il y a pourtant eu le mouvement du Irak 2 ans auparavant. On aurait pu imaginer que ça s'exprime à travers des candidats nouveaux, à travers une plus forte participation. Même si, on le rappelle, hein, il y a eu de très nombreuses arrestations juste avant le scrutin. Et au contraire, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé.
Non, parce que le Irak, c'est un mouvement qui est tellement large, tellement transversal. Il y avait à l'époque dans les rues des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des salariés, des chômeurs. Il y avait vraiment tout. Donc c'est assez compliqué de faire ressortir un candidat du Irak. Parce que s'il y en a qui disent « moi je suis candidat du Irak », il y a forcément une partie qui va dire « bah non, tu ne l'es pas, tu me représentes pas » et inversement. C'était impossible d'avoir un candidat du Irak. Et c'est pour ça que...
Il n'y a pas de parti du Irak, ça ne s'est pas
non,
structuré
Irak,
évidemment
pas.
De cette manière-là.
Non, c'est ça. Et c'est même impossible. C'est aussi ce que ceux qui votent, il y en a qui me l'ont dit, en disant bah, « oui, merci le Irak, mais ça fait 2 ans. Et alors, il s'en est où le Irak ? À part descendre dans les rues tous les vendredis, le temps de la rue, le vendredi, c'est fini.
Il faut que ça se transforme.
Faut passer à autre chose. Et c'est ce que certains reprochent au Irak, c'est de ne pas avoir su transformer politiquement, en tout cas, ce mouvement populaire.
Une dernière question, justement, et ça rejoint ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce qui reste de ce souffle, justement, d'il y a 2 ans dans la rue dont vous nous parliez au début de la séquence ?
Tous s'accordent à dire qu'il y a quand même eu du positif. Même si aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils imaginaient, on est plus de 2 ans après, il y a Bouteflika qui est parti, c'est quand même incroyable. Enfin, même quelques jours avant, quelques semaines avant, c'était inimaginable. La parole a été libérée. Une partie de ce qu'ils appellent le système est partie en prison. Il y a quand même des généraux très influents qui sont partis en prison, qui depuis sont ressortis. Ce que beaucoup reprochent ensuite au système, c'est d'avoir réussi à s'auto-régénérer. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte d'immense désespoir chez les Algériens, c'est qu'ils ont l'impression que ça ne finira jamais. Et que ce qu'ils appellent le pouvoir populaire, le pouvoir issu de la rue pendant le Irak, n'arrivera jamais au pouvoir politique un jour en Algérie.
Et vous prolongerez justement demain cette discussion autour de la liberté de la presse en Algérie avec Sophie Larmoyer.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont été emprisonnés jusqu'à quelques heures même avant le vote. Donc on va parler de cette liberté de la presse, que la presse algérienne, qui est quand même très virulente et très forte, essaye de maintenir coûte que coûte.
Merci beaucoup Mathieu Bock.
Merci Fabienne.
Europe 1.
Dans un instant, gros plan sur le procès en appel d'un homme qui clame son innocence dans une affaire qui remonte à près de 20 ans, le meurtre de la jeune Élodie Kulik, qui est aussi le combat d'un père pour connaître la vérité.
Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
Gros plan maintenant sur le procès en appel d'un homme qui clame son innocence et qui a totalement changé de stratégie depuis son premier procès, où il avait été condamné à 30 ans de prison. Cet homme, c'est Willy Bardon. Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
C'est vous qui suivez ce procès en appel à Douai. On va revenir en quelques mots d'abord sur ce qu'on reproche à Willy Bardon dans une affaire qui remonte à près de 20 ans, le meurtre d'une jeune femme, Élodie Kulik, qui est aussi le combat d'un père pour connaître la vérité.
Oui, effectivement. Alors, Élodie Kulik, vous savez, c'est cette jeune banquière de Péronne dans la Somme, donc, dont le corps violé et à moitié carbonisé avait été retrouvé dans une décharge agricole en janvier 2002. Et pendant 10 ans, eh bien, cette affaire était devenue un cold case. Hein. La seule piste des enquêteurs, c'était un enregistrement de l'appel téléphonique aux pompiers passé par Élodie au moment de son agression en pleine nuit, alors que sa voiture venait d'être accidentée en rase campagne. Et sur cet enregistrement, eh bien, on entend des hurlements de la jeune femme et les voix d'au moins 2 hommes. Il y a eu tout au long de ces années des centaines de témoins auditionnés, des dizaines de milliers de tests ADN, finalement sans résultat, et un père, Jacky Kulik, qui va remuer ciel et terre pour retrouver les meurtriers de sa fille. Il est même allé jusqu'à proposer en 2005 une récompense de 300 000 euros correspondant à une indemnisation qu'il avait touchée pour obtenir des témoignages permettant l'arrestation des meurtriers.
Et en 2012, coup d'accélérateur de l'enquête.
Oui, de nouvelles techniques ADN ont permis cette année-là d'identifier l'un des violeurs d'Élodie. Le problème, c'est qu'il était mort depuis plusieurs années dans un accident de voiture. Et c'est donc dans son entourage que les enquêteurs vont cibler un autre homme, un jeune homme, Willy Bardon, dont certains proches vont reconnaître la voix sur le fameux enregistrement. Des témoignages contestés et très discutés, on le verra tout au long des deux procès.
Alors, Willy Bardon a en effet été condamné à 30 ans de réclusion à Amiens en décembre 2019. Il a fait appel et contrairement au premier procès où il avait adopté, vous m'avez dit, un profil bas avant un geste spectaculaire au moment du verdict, là, il vous a parlé avant l'audience. Déjà, comment c'est possible?
En fait, pour des raisons de longueur de procédure, Bardon comparaissait libre à son premier procès à Amiens. Mais à ce moment-là, effectivement, en décembre 2019, il évitait les micros et les caméras comme un accusé donnant l'image du coupable désigné. Et devant la cour, tout en clamant son innocence, eh bien, il faut bien reconnaître qu'il se défendait mal. Il se défendait très mal même. Et au moment du verdict, il a effectivement tenté de se suicider en avalant un pesticide. Alors, ses avocats ont fait appel. Bardon a été remis en liberté en attendant le second procès. Et c'est là qu'il a décidé de prendre la parole publiquement pour exprimer son point de vue à visage découvert pour rejeter les accusations qui pèsent sur lui. Et c'est ainsi que je l'ai rencontré à Amiens, au cabinet de maître Stéphane Dacco, l'un de ses avocats.
On me reproche des faits que j'ai rien à voir là-dedans. On m'accuse d'être quelqu'un de très malhonnête envers tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis prêt à parler pour expliquer que c'est pas moi, tout simplement. Je vais plus avoir peur de parler. Si on me demande des choses, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit énormément de bêtises. Aujourd'hui, nous, on travaille avec mes avocats pour expliquer que c'est pas moi, tout simplement. Et de faire voir aux gens que tout ce qui m'a été reproché, c'est faux.
Et voilà, faire voir aux gens que tout ce qu'on m'a reproché est faux. Comment vous analysez ce changement d'attitude?
Eh bien, écoutez, tout simplement par le fait qu'un procès en appel, c'est une nouvelle donne. Alors, il y a d'abord le dossier. En l'absence d'éléments matériels, de traces ADN par exemple, le seul élément qui accuse Bardon, c'est sa voix sur cet appel aux pompiers qui aurait été reconnu par des proches. Or, compte tenu de l'extrême mauvaise qualité de cette bande-son, eh bien, cela reste sujet à caution. Et donc, face au doute, pour la défense, il y a forcément une stratégie de communication. Vous savez, un accusé au regard fuyant et au discours confus ne provoque pas le même effet sur un jury qu'un homme qui se tient droit et qui clame son innocence. Stratégie donc face au juge, mais aussi stratégie médiatique, il faut bien le dire. Et on l'a bien vu cette semaine avec le témoignage de la compagne de Willy Bardon qui, elle aussi, a décidé de s'exprimer ouvertement devant les journalistes pour défendre son compagnon.
Il a complètement changé par rapport à la première fois. La première fois, il subissait son procès. Là, il est acteur de son procès. Il est beaucoup plus combatif. Il est mieux, là.
Vous dites, ça va peut-être changer le regard de la justice sur son cas, sur ce dossier?
Bon, on en espère toujours, mais on n'espère pas trop non plus pour ne pas tomber de haut comme la première fois. Parce que malgré tout, le dossier, il n'y a rien dedans.
Vous êtes convaincu de l'innocence de Willy?
À 200%, même 300, 400%. Et je ne suis pas toute seule, il y a tout le comité de soutien derrière. Et c'est que des proches à lui qui sont prêts à se battre bec et ongle pour lui. J'espère de tout mon cœur qu'il sera acquitté, franchement.
Voilà, on entend ce témoignage. Comment ce changement d'attitude de l'accusé est vécu par la famille d'Élodie Kulik? Vous nous avez parlé du combat de son père depuis des années pour faire émerger la vérité.
C'est plutôt mal vécu. Jacky Kulik, alors, ne le dit pas ouvertement, mais il sent que ce nouveau visage, d'une certaine façon, que tente de montrer Willy Bardon et sa défense, ce nouveau visage pourrait peut-être avoir un effet sur le jury au moment du verdict. C'est la raison pour laquelle lui, eh bien, il continue de marteler sa conviction. Willy Bardon était bien sur les lieux de l'agression de sa fille cette nuit de janvier 2002. Aucune place pour lui pour le doute.
Moi, je laisse dire parce que chacun est libre de parler. Bon, personne n'est dupe. Il a beau essayer de paraître, ses avocats ont beau essayer de le faire passer pour quelqu'un de respectable, c'est pas du tout le cas. Pour moi, il n'y a aucun doute. Et j'ose espérer que cette fois-ci, le traitement sera encore plus sévère. Moi, je demande la perpétuité.
Alors, vous nous le disiez, Lionel, au cœur de ce dossier, l'élément clé, c'est cette bande-son de l'appel d'Élodie Kulik aux pompiers. Elle a été d'ailleurs diffusée à l'audience.
Oui, une première fois cette semaine, 26 secondes de cris, de hurlements déchirants de la jeune femme dont on devine, il faut bien le dire, qu'elle vit à ce moment-là les derniers instants de sa vie face à des agresseurs qui vont ne lui laisser aucune chance. Une bande qui sera de nouveau au cœur des débats la semaine prochaine avec les experts et des témoins qui disent donc avoir reconnu l'accusé. Mais vous savez, Fabienne, la présidente a prévenu, cette bande, on ne l'écoutera pas 100 fois, ça finirait par devenir malsain.
Merci beaucoup Lionel Gougelot, et verdict attendu ?
Le 2 juillet, ou peut-être un petit peu avant le 1er juillet.
Merci à vous.
Merci Fabienne, à bientôt.
Europe 1.
Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission et qui chaque semaine vous racontent l'actualité. Marion Dubreuil, Maud Descamps, Lionel Gougelot, Jean-Sébastien Soldaini et Mathieu Bock. Un grand merci aussi à Cyril Pascal et Jérémy Hébert pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr. Dans un instant, place au sport avec Europe 1 Football Club et Lionel Rousseau qui va vous faire vivre l'avant-match Hongrie-France.